À quoi correspond le royaume de Dieu numéro 9, la semence? L'histoire l'Irmark 4h26-29. En général, le fermier palestinien, une fois les semailles faites, ne revenait travailler dans son champ que pour la moisson. Jésus évoque ce fait pour souligner que la croissance est un processus mystérieux qui se déroule indépendamment des actes des hommes, c'est le grain qui lève tout seul. D'ailleurs, l'intérêt du fermier se porte plutôt sur le but pour lequel il a semé le grain, la moisson. Dès que le fruit est mûr, il se met aussitôt à le recueillir, sans se préoccuper tellement de savoir comment le blé est parvenu à la maturité. Le contexte de cette parabole fut prononcé par Jésus sur les bords du lac et dans les mêmes circonstances que celles que nous avons déjà étudiées. Elle n'est cependant pas rapportée dans Matthieu 13, l'évangile de Marc seul nous l'a conservée. En substance, cette petite histoire concorde étroitement, non pas tellement avec celle du semeur, comme on le prétend souvent, mais plutôt avec la parabole du grain de moutarde. C'est, du moins, ce qu'insinue la place qu'elle occupe dans le texte du second évangile. L'application originelle, comme c'est le cas des autres paraboles ayant explicitement trait au règne de Dieu, celle-ci est souvent appliquée à l'Église ou à son œuvre de prédication. Voici les deux interprétations généralement proposées dans cette ligne de pensée. 1. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église, se développera progressivement à travers les siècles jusqu'à ce qu'il parvienne, en vertu du pouvoir de croissance qu'il possède, à la consommation finale. 2. La semence représente la prédication de l'Évangile, la terre, le cœur fertile des auditeurs bons et honnêtes, la croissance du blé, l'œuvre progressive de la parole dans le cœur, la moisson, la conversion ou bien la transformation de la personnalité. La leçon principale serait donc soit l'expansion progressive de l'Église, soit l'efficacité de l'Évangile dans les âmes. Il faut, cependant, reconnaître à nouveau que l'objet de cette parabole, et de toute la série des paraboles dont elle fait partie, n'est pas l'Église, c'est-à-dire la petite communauté des sauvés. En effet, il n'y a pas à chercher longtemps le premier terme de comparaison, c'est le règne de Dieu, le règne messianique qui n'était pas encore là mais qui était en cours de réalisation pendant et à travers le ministère de Jésus. Il est donc plus vraisemblable et naturel que cette parabole s'applique à la situation inaugurée par la venue du Christ, la situation dans laquelle vivaient Jésus et ses auditeurs immédiats. Ceci dit, examinons les différents éléments de ce petit tableau pour déterminer l'enseignement principal qu'il nous lègue sur le règne. 1. La comparaison principale. La formule d'introduction, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre », ne signifie pas que le règne ressemble à un homme ou à une semence. Ce qu'il faut comparer, c'est les deux situations dans leur ensemble, la destinée du règne au temps de Jésus et celle du grain dans la terre. 2. La moisson. Le mouvement de cette parabole oriente notre attention sur la moisson, qui en constitue le point culminant. Après le suspense du développement du grain, soudain arrive le jour où le blé est mûr et le fruit est immédiatement récolté. Car c'est là, en effet, le but et la destinée de la semence jetée en terre, on ne sème que pour moissonner. La destinée du règne messianique était, à l'époque de Jésus, de venir et de se manifester pleinement. Son irruption dans le monde ne devait se passer que lorsque Jésus serait glorifié et intronisé à la droite de Dieu. Mais ce moment viendrait bientôt. C'est là justement le cœur de la prédication de Jésus, Marc 1h15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. La moisson représente donc l'établissement définitif, l'avènement complet et glorieux du règne messianique. Cette moisson n'était pas encore là, mais s'approchait de manière irrésistible. 3. Les semailles. Si la moisson, qui renvoie à la pleine réalisation du règne, est présentée comme étant future mais proche, les semailles, elles, sont signalées au passé. Suivant fidèlement l'étendue des verbes grecs, la Bible de Jérusalem traduit ainsi Marc 4h26, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. La graine n'est pas plantée sous nos yeux, elle a déjà été semée. » De même, au moment où cette parabole fut prononcée, le règne messianique était déjà semé, sans doute par la venue du Messie et par l'inauguration de son ministère public. C'est alors que Jésus avait commencé à prêcher, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Les actes et les paroles de Jésus étaient le début des événements qui aboutiraient à la réalisation parfaite du règne. Il y a donc ici, comme dans la parabole du grain de moutarde, une continuité et un contraste entre le règne annoncé et le règne établi, le premier répondant aux semailles, et le second à la moisson. Comme le fruit complètement mûri sort du grain jeté en terre, ainsi le règne complètement réalisé sortirait du ministère, déjà inauguré, de Jésus. Le grain était semé, lorsque le moment serait venu, la moisson arriverait. Après avoir été annoncé, le règne atteindrait le point voulu par Dieu. 4. La croissance. Entre les semailles et la moisson, entre le règne annoncé et le règne établi, La semence mûrit de façon mystérieuse, sans que le paysan sache comment, et spontanée, la terre produit d'elle-même. Le règne messianique s'avança irrésistiblement vers sa réalisation, mais d'une manière qui échappait à la compréhension des Juifs, qui en étaient témoins. Cette parabole est donc tout d'abord porteuse du mystère du règne de Dieu et du secret messianique. Elle répond aux idées préconçues des Juifs, qui s'attendaient à voir le règne messianique s'établir dans l'éclat de grands exploits politiques et militaires et qui ne pouvaient pas croire que ce règne puisse arriver par un moyen aussi caché et peu évident que le ministère de Jésus. Pourquoi Jésus n'agissait-il pas pour rassembler le peuple et libérer Israël du joug des Romains? Le refus de Jésus ne contredisait-il pas ses prétentions? Même ses frères lui en faisaient le reproche, Jean 7, 4, « Personne n'agit en secret, s'il cherche à se mettre en évidence, si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Par là Jésus a déçu son peuple, voir Jean 6h14-15, 18h36. À tout cela répond cette parabole. La maturation du blé non seulement échappe à la compréhension des hommes, mais se fait indépendamment de leur volonté sans leur intervention. C'est sur cela que Jésus insiste en disant que la semence croît d'elle-même, que le semeur dorme ou reste debout. L'énumération des différentes étapes de la croissance exprime cette même idée selon laquelle le grain lève tout seul sans intervention supplémentaire du 47 paysan, sans même que celui-ci sache comment, la graine germe, la plus lente pousse, se prépare. L'absence d'une indication de durée milite contre une interprétation qui voudrait assimiler la venue du règne à un long développement terrestre tel que l'expansion de l'Église à travers les siècles. De même, l'avènement du règne était lui aussi indépendant de la volonté de l'homme. C'était un événement qui arrivait aux Juifs, un fait accompli qui leur était présenté. On pouvait chercher le royaume, Matthieu 6h33, s'efforcer et lutter pour y entrer, Luc 13h24. 16h16, Matthieu 7h13, s'y préparer par la foi et la repentance, Marc 1h15, et se tenir prêt à l'accueillir. Mais on ne pouvait rien faire de ses propres forces pour amener sa manifestation, ni pour l'empêcher. Daniel décrit ainsi l'apparition du règne messianique, Daniel 2h34-35, une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, et devint une grande montagne et remplit toute la terre. L'avènement de ce règne se réaliserait par les moyens, non pas humains, mais surnaturels et invisibles. Les Juifs, par contre, étaient toujours prêts à intervenir par la force pour amener le règne. Mais toute leur agitation humaine était inutile. En dépit de l'apparence cachée et ambiguë qui caractérisait alors le règne, il s'approchait de son accomplissement irrésistiblement et sans le secours d'aucun homme. Pourquoi l'homme ne serait-il pas capable de contribuer à la venue du règne? Parce que c'était le règne de Dieu. C'était son affaire. C'est lui qui était à l'œuvre pour le faire advenir par sa propre force et selon son propre dessein. C'est lui qui en disposait et qui le donnait aux hommes, Luc midi 32, 22h29-30. Ce caractère gratuit et surnaturel du règne annoncé apparaît dans l'explication donnée par Daniel de la pierre détachée sans le secours d'aucune main, Daniel 2h44, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. L'arrivée mystérieuse du règne pendant et à travers le ministère de Jésus était donc l'œuvre et le secret de Dieu. C'est pourquoi il fallait croire à cet avènement mystérieux et imminent, la bonne nouvelle du règne et se préparer par la repentance à l'accueillir, Marc 1h15. On pourrait donc exprimer ainsi la comparaison principale de cette parabole, de même qu'une semence jetée en terre croît mystérieusement et produit la moisson, de même Dieu était à l'œuvre dans le ministère de Jésus pour faire advenir, d'une manière mystérieuse mais irrésistible, le règne achevé du Messie. C'est la situation inaugurée par la venue de Jésus que veut mettre en évidence la parabole. Le règne s'avançait, grâce à l'action cachée mais puissante de Dieu, vers son établissement définitif. Le manque de compréhension chez les Juifs ne diminuait pas cette certitude, car c'était Dieu qui agissait. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était accueillir ou rejeter l'événement divin qui leur arrivait. Leçon secondaire 1. Nous ne sommes pas les seuls responsables de l'œuvre divine à laquelle nous participons. C'est peut-être nous qui plantons ou arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître, 1 Corinthiens 3, 6 à 7. 2. Cette parabole nous appelle à faire davantage confiance à la puissance agissante mais invisible de Dieu. Nos soucis, notre impatience, notre ignorance, et nos doutes ne peuvent en rien diminuer l'efficacité de son action, partant de ce qui n'est rien aux yeux des hommes, Dieu mènera à achèvement ses desseins. 3. L'œuvre du règne est surnaturelle et ne se fait donc pas d'après une recette, ni non plus par une fausse activité humaine, dans l'agitation et le tumulte. Nos efforts doivent se modeler sur l'action divine et non pas sur les méthodes et la sagesse des hommes.